L'émission du fictionnaire par Dominique Genvret. Je suis en compagnie de Caroline Octan. Nous parlons de ton nouveau roman qui s'appelle La fabrication du réel, qui vient de sortir aux éditions Tinbad. Nous nous connaissons depuis de très nombreuses années, notamment autour de ton site, hein, de ta plateforme numérique qui s'appelle Des Fictions. Pour ce nouveau livre, j'aimerais que tu nous parles tout d'abord de ce qui se passe au tout début. Qu'est-ce qui appelle ce livre, qu'est-ce qui appelle ce roman, quelle est la situation du personnage au départ?
La situation du personnage, on pourrait peut-être l'imaginer, la sentir, la percevoir à partir de ce que nous vivons aujourd'hui. Ça veut dire une situation qui est à la base assez simple et déterminée par une situation sociale lambda, dont les événements, peu à peu, vont ouvrir des brèches vers une imprévisibilité constante, je dirais ça.
Donc une situation un peu floue, néanmoins, on comprend que ce personnage a un père qui est décédé, qui va jouer un grand rôle et qui va donner suite à un voyage aux États-Unis.
Oui, si on doit resituer dans le contexte d'écriture, on va dire que c'est un personnage qui fait un peu suite à mon deuxième roman. C'est même le même personnage, à savoir un J.E., qui s'incarne dans le contemporain. Et alors que son père est décédé, il découvre que... son père ne lui a pas tout dit, on le savait déjà dans le livre précédent. Mais là, dans ce qui n'est pas dit, c'est comme si ce qui était tu se révoltait et réémerge pour finalement directement changer la trajectoire de ce jeu, de ce personnage, et l'obliger à se saisir d'un passé qu'il ignorait, mais qu'il ne peut plus continuer à ignorer, non pas qu'il l'ignorait volontairement, mais disons qu'on lui avait caché.
Alors il faut parler de la situation du père, parce que c'est celle-ci qui va transformer toute l'histoire de ce narrateur, parce qu'il y a une malle qui est en possession du narrateur. C'était la malle du père, et il faut que tu expliques la situation de ce père particulier.
Donc, à la mort du père, le personnage principal du livre se voit remettre une malle militaire qui contient un certain nombre d'effets. Et parmi ces effets, des documents de travail qui s'avèrent être des documents de mission sur le terrain en tant qu'officier traitant, notamment pour l'Alliance Atlantique. Et puis d'autres effets, dont une boîte qui contient des pièces, un Minolta miniature, je ne sais plus, différents effets, bon bref. L'intérêt, en fait, de cette malle militaire, c'est qu'elle n'a rien de précieux, mais le personnage, suite à des événements étranges dans sa vie, des fracturations de boîtes aux lettres, des appels anonymes, des pressions extérieures, va devoir, à partir de cet amas quelconque et banal au sein de cette malle militaire, passer en examen, en étude, chaque affaire, chaque objet, chaque souvenir, chaque photographie, jusqu'au moment où il va comprendre que dans cet ensemble, quelque chose est au cœur de ce qui trouble son existence quotidienne.
Peut-être que c'est le moment de dire que ce père était un espion. Ça permet un espion... Qui évolue dans ce milieu-là, ça permet de peut-être comprendre après le jeu qu'il va y avoir avec ce narrateur et la fiction et la littérature.
Oui, alors c'est toujours étrange de se dire qu'un officier traitant, ce qu'on peut appeler aussi un agent du renseignement, est appelé un espion. Le terme espion est assez galvaudé. Ça marche peut-être dans les films et dans les livres d'ailleurs, mais espion ne veut rien dire. Donc le personnage se retrouve avec un père qu'il n'a pas connu, qui est donc officier traitant au sein de MI6 pendant la guerre de MI9 et qui se retrouve à être une sorte de transfuge, non pas vers un pays satellite de l'Empire soviétique, mais plutôt vers les États-Unis, donc vers une agence de renseignement assez connue aux États-Unis. Et tout cela dans un cadre d'opération post-guerre, Deuxième Guerre mondiale, et qui a à voir avec donc, la guerre froide. Et en tant qu'officier traitant, il agit notamment en France et en Europe, mais notamment en France, pour installer ce qui a été appelé les « stay behind », à savoir des poches de résistance à une potentielle, invasion russe. Donc tout cela s'est passé entre 1947 et 1989.
Ceci posé, je vais vous parler maintenant du narrateur, quelqu'un qui a l'ambition d'écrire de la littérature, d'écrire des romans, et c'est cela aussi qui va traverser tout ce livre, La fabrication du réel. C'est pas pour rien qu'il y ait ce titre aussi, qui est relié à l'ambition littéraire du narrateur. Un des points de départ, c'est le rendez-vous du narrateur avec sa professeure de thèse pour parler de l'histoire secrète qui serait contenue dans la malle du père et de ce fameux réseau de Stay Behind. Il y a ce passage que je te cite. En histoire, donc dans la discipline historique, nous étions donc toujours dans l'interprétation des événements, des faits ou des mythes. Or, pour ma part, j'avais fait le choix de la littérature qui était davantage de les faire naître.
Oui, en fait, le jeu, le personnage principal, n'a pas conscience que les événements que va lui faire vivre le père vont induire son existence dans une autre direction, parce qu'il est entièrement pris par la volonté d'écrire un roman qu'il nomme Lex Villa, et qui concentre toutes ses forces, prend toutes ses forces pour parvenir à faire un grand œuvre. Qui finalement est la seule échappatoire de la réalité à ses yeux, donc la réalité étant amenée à devoir occuper des bullshit jobs ou participer d'une vie en société qui repose sur l'hypocrisie, le virtuel, le consumérisme et le vide existentiel tout court. Donc la volonté de parvenir à faire un grand œuvre, un roman qui serait plus qu'un roman, qui finalement redéfinirait la trajectoire de son existence, le sens de sa vie, l'amène aussi à couper avec une réalité cachée, et qui est la réalité cachée de son père. Donc ces deux réalités s'affrontent, la réalité du quotidien qu'il vit et cette réalité du secret familial. Et si elles sont éloignées de ce qu'il veut faire dans l'écriture, eh bien, ça le ramène finalement à en traiter dans son écriture et à se poser la question de qu'est-ce que peut l'écriture face à des événements qui le dépassent.
Il y a beaucoup de questions de Lex Villa, donc le livre qu'est en train d'écrire le narrateur. On peut bien entendu y voir le précédent roman que tu avais publié qui s'appelle « Dans l'existence de cette villa ». Je te cite à nouveau, c'est le narrateur qui parle. « J'écrivais l'ex-villa de par la nécessité intérieure qui m'animait, avec l'ambition même de façonner une poétique, d'esquisser un pragmatisme et de réussir à créer une véritable œuvre spéculative, une œuvre de sens-fiction, non pas de science-fiction, mais de sens-fiction. » Et il y a cela aussi qu'il fallait, je continue à te citer, l'objectif que je visais me semblait donc tout aussi difficile à atteindre que l'origine sur laquelle je m'appuyais avait été elle-même complexe à établir. Je n'avais pourtant plus aucun doute sur ce que je devais écrire. Il y a vraiment sans cesse cette ambition littéraire qui transparaît dans tout le roman. C'est peut-être sans doute la fabrication du réel, c'est aussi peut-être cela, c'est un enjeu littéraire.
Alors, c'est difficile de répondre à une telle question parce que... comment expliquer ça? Évidemment, le personnage procède d'une certaine réalité par rapport à mon existence même, moi l'auteur, mais ce n'est pas moi non plus, donc c'est presque une projection de ce que moi en tant qu'auteur, j'aimerais vivre dans l'écriture. Donc pour le vivre, je produis cette écriture, mais évidemment comme tout auteur qui a quelques exigences et ambitions, il y a un moment où le personnage... échappe à son créateur. Donc, dans le cas de ce livre, on peut dire que le personnage ne m'a pas foncièrement échappé, mais il m'a amené à devoir me poser la question, finalement, de ce que je voulais jouer dans l'écriture. Et ce que je voulais jouer dans l'écriture revenait à dire que je jouais aussi quelque chose de problématique avec la réalité. Et il fallait que je règle cette problématique avec la réalité pour trouver des solutions dans l'écriture. Mais en trouvant les solutions dans l'écriture, le personnage exigeait de moi toujours plus. Et donc finalement, pour régler mes problématiques de la réalité, il a fallu que j'accepte les solutions que me proposait le personnage. Donc les deux, l'écriture et la vie, se sont réunies, et c'est parce que le personnage avait des solutions qui pourraient paraître romanesques, fictionnelles, et donc totalement secondaires, voire ineptes à certains moments. Eh bien, c'était des solutions qui... ne pouvant pas être appliquées à la réalité, générait une énergie ou une manière de se comporter qui permettait de faire un pas de travers et trouver d'autres issues ou d'autres moyens de se confronter à ce que la réalité me faisait vivre.
Parce que la réalité, ce qu'elle faisait vivre au narrateur, c'est que il y a un voyage aux États-Unis pour partir sur les non pas les terres de ce père, mais l'agence, c'est-à-dire l'agence qui pour lequel il travaillait, parce qu'il y a vraiment tout un jeu à la fois sur la littérature, sur l'usage de la fiction, sur le romanesque et sur une vie réelle qui est cette situation des stay behind pendant toute la seconde moitié du XXe siècle en Europe et notamment en France. C'est-à-dire qu'on rejoint une histoire de roman, de littérature et de cette ambition. Et en même temps, ce qui relève de l'histoire politique, de l'histoire stratégique, de l'histoire géopolitique, entre des relations entre les États-Unis et là particulièrement la France.
Alors... le personnage qui part aux États-Unis, en Usonia exactement, rejoindre la compagnie, qui est donc cette agence de renseignement assez célèbre, qui en 1947 s'est constituée et après la Deuxième Guerre mondiale a essayé de réfléchir à protéger l'Occident d'une invasion soviétique, ou du moins de prévoir qu'une invasion soviétique ou russo-soviétique pourrait avoir lieu un jour, a finalement tramé dans toute l'Europe et notamment en France ce réseau de contre-espionnage, d'action qui peu à peu a sans doute dérogé à sa seule mission de protection d'une invasion pour devenir un réseau de cellules dormantes, de renseignements purs. Et cette histoire qui est méconnue, que je n'ai pas étudiée moi personnellement, hein, mais qui a intéressé un certain nombre d'historiens, et elle-même... quasi-fictionnelle dans le sens où peu de gens la connaissent et elle fait partie de l'histoire cachée. L'histoire, elle a une dimension historique qui est une dimension historique cachée. Souvent, quand on parle des agences de renseignement américaines ou atlantiste, on en revient toujours à l'Alliance Atlantique, à certaines agences de renseignement, mais on n'imagine pas tout un réseau qui se trame à travers l'Europe. On n'imagine pas non plus que les services de renseignement ont une double histoire, celle que l'on connaît, qui est étudiée, dont on entend parler dans les journaux, et puis celle vraiment, pour le coup, secrète, mais qui est plutôt cachée que secrète, et qui n'ont pas réécrit l'histoire, mais justement, fabrique le réel.
Parce que ça, c'est quand même l'autre fil conducteur de ton livre, et c'est peut-être ça qui fait aussi que la fabrication du réel provoque un effet étonnant, assez inattendu chez le lecteur. C'est qu'on a à la fois une histoire de un narrateur qui a une ambition littéraire, ce qui, somme toute, est récurrent dans beaucoup de romans occidentaux au XXe siècle, mais il y a une histoire derrière. En espionnage est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas une histoire qui relève de cela, de par le père du narrateur. Et ces deux imbrications font comme si elles cherchaient un sens. On va peut-être comprendre mieux avec cette citation. Je te lis. « Je commençais à mieux comprendre les étonnants propos du stratège politique d'un ancien président du pays. Nous sommes un empire maintenant, et quand nous agissons, nous créons notre propre réalité. Et pendant que vous étudiez cette réalité, judicieusement bien sûr, nous continuerons d'agir, créant d'autres nouvelles réalités, que vous pourrez ainsi étudier. Et c'est ainsi que les choses vont se dérouler. Nous sommes les acteurs de l'histoire, et vous tous, il ne vous restera qu'à étudier ce que nous faisons. » C'est peut-être ça aussi le cœur du roman.
C'est étrange d'en parler aujourd'hui, évidemment, par rapport à ce que nous vivons en 2025. Il faudrait dire que ce roman a été écrit quand même, il a été terminé, achevé d'être écrit en 2019, juste avant le confinement et les événements que nous avons vécu jusqu'en 22. Il ne trouve apparaître qu'aujourd'hui, et bizarrement, quand je replonge dans ce texte ou que l'on m'en parle, il est attaché à une période qui pour moi était finie et qui avait fini d'ailleurs avec l'effondrement de l'Union soviétique. Mais justement, ça devait être d'ailleurs la fin de l'histoire, on dit certains. L'histoire a continué, mais elle n'a pas continué à la vue et au su de tous. Elle a continué de manière assez cachée, mais elle a continué. Il y a eu une lutte, ce qu'on a appelé, qu'on appelle encore aujourd'hui la guerre froide 2.0. C'est une histoire qui est presque l'histoire du présent. On parle de choses du passé, mais qui est un passé flou, qui n'est pas très tangible pour chacun d'entre nous dans cette société, parce qu'elle relève vraiment de la pure géostratégie, de grands empires, de grands pays. Mais en fait, elle nous touche tous les jours, elle nous touche dans notre conditionnement. Et quand on lit mon livre, qui est attaché à une période pendant laquelle il a été écrit, en fait, on pourrait presque penser que je l'ai écrit il y a 15 jours, et voire même que je vais l'écrire demain. C'est toujours le même livre. D'ailleurs, l'incipit du livre, le personnage se confie en disant qu'il va raconter quelque chose qui a eu lieu et qui a sans doute encore lieu. Et à la fin, il leur raconte ce qu'il a traversé durant tout ce livre à un autre personnage, et il lui fait le récit de ce propre livre. Et en spécifiant que l'histoire continue peut-être toujours de la même manière, et sans que personne le sache.
Il y a une curieuse concomitance. Ton précédent livre, Dans l'existence de cette vie-là, débute à New York en 2008. Le livre est sorti en 2016. Et il débute à New York en 2008 en pleine crise financière des subprimes, c'est-à-dire cette crise économique et financière majeure, encore plus forte que celle de 1929. C'est vraiment une crise, on l'oublie peut-être, à quel point la crise de 2008 était vraiment une vraie grande et forte crise financière et économique la plus importante du XXe et du XXIe siècle qui s'est ouvert là. Or, curieusement, ton livre La fabrication du réel sort avec le retour de Donald Trump au pouvoir. Et il y avait cette phrase dans ton précédent roman, dans L'ex-villa, qui relatait une discussion lors d'un dîner en ville avec un avocat. L'avocat pensait donc que nous étions arrivés à un moment crucial où l'instauration d'un ordre néofasciste lui paraissait plus que jamais crédible, sinon probable, si les gens continuaient à accepter, contre un confort matériel très relatif et surtout illusoire, de se soumettre au système. Voilà, l'instauration d'un ordre néofasciste.
Alors c'est vrai que rétrospectivement, par rapport à l'écriture dans l'existence de cette vie-là, où je sentais un peu se profiler ce que nous vivons aujourd'hui, lorsque j'écrivais dans l'existence de cette vie-là, il y avait donc une histoire parallèle à ce deuxième roman qui est aujourd'hui donc dans La fabrication du réel. Et donc, on peut dire que La fabrication du réel est presque le making-of dans l'existence de cette vie-là. Il s'est écrit en parallèle, c'était un livre qui n'aurait pas dû sortir pour plein de raisons, et que je réussis à faire publier aujourd'hui. Et malgré ce passage du temps, on a l'impression qu'un livre choisit toujours son époque pour se montrer, et que La fabrication du réel a choisi 2025, alors qu'il a été écrit entre 18 et 19, à partir de 17, mais disons jusqu'au milieu 19, et qu'on pensait déjà que le premier mandat de Donald Trump était la pire chose qui soit arrivée sur Terre, ou quasi, pour beaucoup de gens en tout cas. Et aujourd'hui, on revit un peu la même chose, et c'est ce qui montre que peut-être le récit que je fais d'un autre événement historique a des échos avec l'actualité. Il y a comme une filiation, peut-être, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais enfin disons une filiation entre des événements, filiation qu'on ne parvient jamais à comprendre ou à vraiment percevoir sur le coup, mais qui est effective. Et donc, après coup, a posteriori, on a l'impression que tout se répond, que tout était prêt. Enfin, c'est presque un scénario machiavélique, et que je ne sais pas comment le dire. Il y a quelque chose de presque machiavélique, mais qui m'échappe totalement. C'est-à-dire qu'on écrit parce qu'on vit quelque chose de présent, mais comme je le disais tout à l'heure, ce présent est en fait une histoire, et c'est l'histoire du présent, mais c'est aussi le passé, et le futur est compris dedans. Donc nous, en tant qu'auteurs, on le dépose. On dépose ce présent, on dépose ce futur, on dépose ce passé, et on ne voit pas ces filiations. On les perçoit quand même, mais on ne les comprend pas, on ne les saisit pas. Et c'est évidemment toujours après coup qu'on se dit, bah oui, c'est incroyable, c'est évidemment ça fait résonance. Et on était déjà en marche vers ce fascisme technocratique. Beaucoup, je ne suis pas la seule à l'avoir dit, hein, et beaucoup d'autres personnes ont parlé de ça. Mais à travers la fiction, ça amène un trouble. Un trouble, donc je n'ai pas écrit ce livre il y a 15 jours, je tiens à le dire, puisque l'écriture était vraiment concomitante au deuxième roman dans l'existence de cette vie-là. Mais il paraît aujourd'hui, et comme troisième roman, il a donc la filiation avec le deuxième, et le deuxième avait une filiation aussi avec le premier. Donc tout ça, je dirais, presque logique.
Et ça rejoint cette phrase d'un écrivain que tu cites. Il devient de moins en moins nécessaire pour l'écrivain de donner un contenu fictif à son œuvre. La fiction est déjà là. Le travail du romancier est d'inventer la réalité.
Aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Alors, bon, là, ça nous amènerait à une discussion qu'il faudra avoir assez approfondie sur qu'est-ce que la réalité. Disons que lire un livre qui est une œuvre qui tente de rendre compte de ce que nous traversons, ça veut dire avoir l'exigence finalement de parler de la vie, simplement de la vie, c'est-à-dire sans artifice. Est-ce que ce que nous vivons porte notre futur? C'est nous qui, au présent, fabriquons ce futur. Et si on produit de la fiction pour se divertir et parler du passé comme voilà, d'une page à tourner, d'une somme de connaissances à connaître pour avoir des repères dans le temps, mais dont on a l'impression qu'on est séparé de ça, ou que ça ne regardait que nos aïeux, ou que, je ne sais pas, que c'est ennuyeux, eh bien, on loupe quelque chose de notre propre vie. Et je ne dirais pas que notre vie se tient, enfin, dépendante de l'histoire. Elle a été influencée par l'histoire. Elle n'est pas dépendante de l'histoire, mais elle n'est pas séparée non plus de tous ces événements pourtant passés. Je dirais que justement, écrire de la fiction, parler du passé qui est passé, évoquer le futur qui n'est pas encore là, essayer de réfléchir au présent que nous traversons et qui nous échappe, c'est finalement montrer, faire lire une dimension d'une réalité qui est la réalité la plus forte, c'est-à-dire vraiment la réalité que nous refoulons, mais qui nous habite entièrement et qui, qu'on le veuille ou non, détermine nos existences.
On comprend pourquoi ton livre s'appelle « La fabrication du réel ». Alors, j'aimerais aborder le troisième grand point de ton livre, c'est la langue. Parce qu'il y a une expérience de langue, c'est l'écriture que tu emploies et qui pourrait être appelée l'écriture du neutre. Et peut-être qu'il faudra en passer par ce grand article interview que tu as effectué pour ta plateforme des fictions en été 2023 avec Éric Marty. C'était au sujet de son livre « Le sexe des modernes » qui était paru en 2021 au Seuil. Et cet article s'appelait « Le neutre révélé, retour à la vie ». Et là, ça va permettre peut-être de parler de cette expérience de langue que tu opères dans la fabrication du réel, mais que tu opérais également dans les deux précédents livres.
Dès le dernier degré de l'attachement, et puis dans l'existence de cette vie-là, et enfin dans la fabrication du réel, j'ai toujours mis... En action, un personnage central qui est déterminé par son sujet, qui est donc la première personne du singulier « je ». Et je l'ai fait non pas pour ajouter une couche au « moi, je » de la plupart des romanciers actuels, mais pour... essayer de toucher au plus près à un sujet universel. Et donc, ma volonté a été de faire de ce jeu une voix qui peut être portée par un homme ou par une femme, mais pas dans le sens du transgenre, bien évidemment, mais plutôt dans le sens véritablement d'une reconnaissance de ce qu'est un homme ou de ce que peut être une femme, et de montrer qu'un homme est une femme et qu'une femme est un homme dans la sensation, dans la perception, et non pas, comme on nous le dit depuis quelques temps, dans l'identité sexuelle. Pourquoi un homme est une femme ou une femme est un homme, c'est justement pour dépasser toute cette discussion qui ramène tout à la chose sexuelle. C'est pour montrer que nous sommes plus que ce que nous représentons comme identité sexuelle. Nous sommes une identité humaine. Et dans cette identité humaine, nous avons évidemment en tant que femme ou homme des perceptions et des sensations différentes. Mais finalement, au bout du compte, qui sont les mêmes. C'est-à-dire que nous pensons en tant qu'humains et nous ressentons en tant qu'humains. Et je trouvais, dès mon premier roman, cela m'avait marqué par rapport à différentes expériences personnelles, que nous parlons toujours des hommes et des femmes, de leurs différences, de leurs différends, de leur opposition, de leur rapport inconciliable presque. Alors même qu'on oublie toujours de parler fondamentalement de ce qui fait qu'ils sont hommes et femmes, c'est-à-dire leur humanité. Donc mon jeu, ce personnage non identifiable mais qui l'est pourtant, est un personnage qui veut parler au nom des hommes et des femmes, de l'humain, qui est évidemment une entité aujourd'hui très intéressante, l'humain, parce que c'est une entité qui a été sous-estimée, qui est malmenée et qui a une certaine forme d'obsolescence, paraît-il, qui doit être prise au sérieux, puisque c'est une entité qui pourrait tout à fait disparaître un jour.
Mais cette expérience menée dans le roman, menée dans la littérature, elle est inédite, parce que jusqu'ici, elle n'a pas été menée.
Alors, a priori, dans la littérature française, il n'y a pas d'auteurs qui ont fait émerger un personnage neutre. Il y a Anne Garetta qui l'a fait dans Sphinx, mais c'est compliqué de le considérer comme neutre, dans le sens où son personnage s'appelle A, suivi de trois petites étoiles, et qu'évidemment, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais comme l'auteur s'appelle Anne Garetta, on imagine bien une proximité de sujet et donc d'identité. Colette a fait une nouvelle où le personnage est peut-être le premier personnage neutre. Je n'ai plus le titre de cette nouvelle, mais ça se retrouve. Maintenant, ce personnage ne parlait pas en son nom « je ». Moi, le personnage. Il parlait, je ne sais plus sous quel nom, avec un prénom ou un nom épicène certainement. Mais je n'ai pas connaissance, c'est vrai que dans la littérature française, je n'ai pas connaissance d'un « je » qui serait absolument pas identifiable à une identité sexuelle. Ce qui est intéressant avec Éric Marty, pour lequel j'ai fait un rapport de lecture sur ce livre, qui s'appelle « Le sexe des modernes », c'est que ce livre d'Éric Marty expose pour la première fois la dimension, la force de l'histoire du neutre par une généalogie littéraire et philosophique, en revisitant évidemment toutes les œuvres qui ont de près ou de loin été intéressées par cette notion ou ce concept du neutre. Et s'il cite des œuvres littéraires qui ont essayé d'appliquer le neutre, il est vrai qu'au personnage principal, c'est-à-dire à la voix en fait, parce qu'on parle de personnage, moi-même je parle de personnage principal, mais en fait c'est la voix. C'est la voix VOX, c'est la voix VOIE, c'est-à-dire c'est qui parle en nous et ce qui parle en nous, peu importe que ça passe à travers un homme ou une femme, ça porte ce discours, cette parole porte quelque chose qui nous dépasse, puisqu'on ne sait pas comment ça marche au fond. C'est pas comment. Alors évidemment, les linguistes vont expliquer plein de choses scientifiques, plein de données que nous maîtrisons de mieux en mieux, qui sont logiques, qui sont scientifiques. Mais ça nous dépasse quand même. Et la richesse des langues, la force de l'esprit, la puissance de l'esprit, bon, pour ne pas dire la conscience, dont on ne sait quasi rien. Ces choses nous dépassent et la voix qui transmet un savoir, une connaissance, des paroles, est plus que celui qui la formule ou celle qui la formule.
Et donc, c'est presque une nécessité d'écrire dans cette langue du neutre. Un penseur comme Éric Marty, qui est un passeur de Roland Barthes, ça te permet de t'appuyer sur une architecture théorique ?
Alors, disons que mon intérêt pour le neutre, tel que Roland Barthes, mais aussi Monique Wittig, l'ont défini chacun à leur manière, m'a amené évidemment à apprécier ce neutre au regard de leur œuvre à l'un et à l'autre, mais à m'intéresser de plus en plus à cette généalogie. Et je n'ai pas creusé de manière théorique ce sujet. Je m'y suis intéressée comme une lectrice ordinaire. Simplement, je pousse plus loin ma réflexion et donc, évidemment, je me penche sur des sources de ce niveau. Mais disons que le mérite du livre d'Éric Marty, c'est qu'il condense et qu'il expose en un volume assez épais, il faut le souligner, mais il expose merveilleusement tout ce déroulé du neutre, tout ce par quoi le neutre a dû passer avant d'en arriver à nous. Et cela permet de comprendre aussi le débat de l'époque avec l'identité transgenre, avec les revendications de minorités. Ça brasse une histoire très très ample et où on voit, où on finit par comprendre que le neutre dépasse encore cette histoire et que lorsqu'on a l'impression de l'avoir circonscrit, il nous échappe encore et qu'il peut être encore autre chose que ce qu'on pense qu'il est. Et justement, le neutre est quelque chose que j'approcherais moi personnellement. Je le rapprocherais plus d'une notion spinozienne. Je dirais que le neutre est peut-être la substance. Je n'en dirai pas plus sur la substance, il faut lire Spinoza pour le reste.
Merci beaucoup, Caroline Octan. Merci.